IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre. Aujourd'hui... une émission, on répond à vos questions, les questions que vous pouvez nous poser sur le 1-844-425-0417. Ensuite, une entrevue avec Richard Olivier de JE. Pour ceux qui l'ont écouté jeudi à JE, on parlait de fraude de chiots, maltraitance d'animaux. On a révélé des affaires assez troublantes durant la pandémie. Une demande qui est incroyable pour des chiens. Il y a des malfaiteurs qui en profitent. On lui en parle tout à l'heure. Ensuite, entrevue à ne pas manquer, très intéressante. Il y a Maître Frédéric Bérard, qui est chroniqueur à l'émission, qui revient. On parle des drames qui se passent en CHSLD. On met souvent la faute sur les employés, mais il y a toute une autre réalité. On sait avec les CHSLD, la pandémie a révélé beaucoup de problèmes. On lui en parle dans quelques instants. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On va parler de fraude de chiots. Imaginez, quand il y a une demande dans un domaine, on veut quelque chose, bien, il y a souvent des malfaiteurs qui vont en profiter. On sait là, qu'en ce moment, avec la pandémie, les chiens ont la cote. Les gens en veulent. Il y a beaucoup de demandes. Les gens sont impatients. Et malheureusement, bien, flairant les bonnes affaires, il y a des vendeurs malhonnêtes qui importent des chiots, qui vendent jusqu'à 10 fois le prix. Et imaginez, il y a certains animaux là, qui sont venus principalement d'Europe, d'Afrique du Nord, qui sont aussi malades à l'arrivée. Et vous avez sûrement vu à JE jeudi dernier, on s'est penché sur la problématique et on en parle avec Richard Olivier, journaliste à TVA à JE, qui est avec nous. Bonjour Richard.
Salut.
Donc, c'est toute une situation que vous avez révélée. Il y a cette demande-là et il y a carrément des gens qui en profitent.
Ben exactement. Le problème vient du fait, et c'est très bien dit, là. La demande est absolument phénoménale depuis la pandémie et l'offre ne suit pas. Les gens, les consommateurs qui veulent acheter des chiots là, d'un éleveur responsable, un éleveur connu qui fait son travail proprement, dans des conditions parfaites, là, eh bien, si vous voulez des chiots qui viennent de cet élevage-là, ben vous allez peut-être devoir patienter jusqu'à 2 ans, parfois même plus, pour obtenir la race que vous souhaitez. Alors que dans les petites annonces, si vous voulez absolument un chien, un poméranien ou encore un bulldog français, parce que les bulldogs français sont très, très populaires, ça a monté en popularité pendant la pandémie, ben là, vous allez en trouver, oui, mais à quel prix? D'abord, les prix ont explosé forcément. Un bulldog français, je donne un exemple, qui se vendait peut-être 1 000-1 200 $ avant la pandémie, se vend aujourd'hui 5 000, peut-être même un peu plus. On comprend donc qu'il y a des consommateurs qui veulent absolument avoir ce genre de chien-là, qui vont aller sur les petites annonces, mais là, attention.
Ils sont prêts à payer, là, c'est ça.
Ils sont prêts à payer. Eux, ils ont le budget, là. Ça fait des années, d'ailleurs, à l'émission GIO, on a rencontré un couple comme ça qui se faisait achaler par leur adolescente, qui voulait un chien, ils ont cédé. Et voyant, justement, les listes d'attente importantes qui existaient, ont décidé d'acheter un poméranien, pardon, sur Kijiji. Mm-hmm. 3 200 $ qu'on devait payer pour cette bête-là, c'était un individu qui s'appelait Sarez, supposément, qui vendait la bête, plusieurs gens texto. Et donc, ce couple s'entend avec Sarez pour aller chercher la bête. Une fois arrivé sur place, l'échange se faisait dans un hall anonyme d'un immeuble de Côte-des-Neiges à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges, pour ceux qui savent où c'est. Là. Mm-hmm. Et là, le revendeur de chiens, c'est comme ça qu'on les appelle, les brocas, eh ben, exige qu'on paye en comptant.
OK.
L'échange se fait, le chien est remis à Monsieur Blais. Et donc, ils repartent à la maison. Première soirée, évidemment, leur petite fille, il a dit qu'il voit le chien parce que c'était une surprise, il était absolument ravi, mais ça commençait à aller plus ou moins bien. Déjà le lendemain matin, il y avait du sang dans les selles. Le chien a commencé à vomir, il s'affaiblissait. Deuxième journée, ça allait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il se cachait derrière les fauteuils. Bref, le couple, voyant ça, qui, je vous rappelle, a payé 3 200 $ leur bête, là, décide d'aller chez le vétérinaire. Et là, ben, le vétérinaire est assez catégorique. Quand il voit la bête, il dit, écoutez, moi, je soupçonne ce qu'on appelle le parvovirus. Là, c'est un virus canin très, très, très contagieux, qui fait en sorte que s'il est maltraité, ce virus-là, ben, fait en sorte que la bête là, va mourir dans les prochains jours. Et c'est ce qui est arrivé. La vétérinaire a dit, écoutez, si vous voulez vraiment le soigner, puis je vous garantis pas du succès des soins qu'on va lui prodiguer, là, ça va vous coûter 6 000 $, mais à votre place, je pense que votre chien y est condamné. Alors, le pauvre couple a dû, évidemment, consentir à l'euthanasie de la bête. Il y avait déjà un nom, ce chiot-là, il s'appelait Milo, mais Milo n'a pas survécu, évidemment, à la famille d'adoption, et ils l'ont abandonné comme ça.
Parce que ce processus-là amène carrément à la maltraitance là, avec ces brokers-là qui importent dans d'autres pays. Là.
Ces chiots-là sont d'abord, d'une part, arrachés trop rapidement à leur mère, parfois même 5 semaines. Même si c'est interdit au Québec et au Canada d'importer des chiens de 8 mois et moins, on le fait quand même avec des papiers que l'Agence canadienne d'inspection des aliments regarde de façon assez rapide. Et ces chiots-là arrivent donc par cargaison. Il y avait un moment donné, l'an dernier, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais on relate cette histoire-là dans l'émission. Il y avait un vol qui partait de l'Ukraine, de Kiev, et qui est arrivé à l'aéroport de Pearson à Toronto avec 500 bulldogs français dans les cages. Et là-dessus, il y en avait 38 qui étaient décédés du parvovirus. Plusieurs autres souffraient de maltraitance, de malnutrition, et étaient vraiment dans un état pitoyable. Donc, on voit que ces transports-là, parfois, se font déjà dans des mauvaises conditions. On a vu beaucoup de zonachios au Québec, là, voyant qui nous montraient. On l'a montré à GIA déjà l'an dernier, là, qui montrait des chiens qui étaient dans des conditions pitoyables, mais c'est pas que ça. Là. Maintenant, ces importateurs-là vont chercher des chiots dans des conditions probablement encore pires, dans des endroits qu'on n'a jamais vus. Et ces chiots-là arrivent au pays, ils sont vendus sur Internet. C'est ça qu'on montre à GIA. Donc, pour revenir à ce couple qui avait acheté le petit Milo, Benoît Blais et Stéphanie Séguin, ils ont retracé le vendeur. Il s'appelait Sarez, mais dans le fond, c'était Mohamed Ayari. On l'a aussi retrouvé pour lui demander des explications. Et là, ben, le pauvre M. Mohamed Ayari n'a jamais voulu nous répondre. Il a abandonné le chien parce qu'il vend toutes sortes de races, M. Ayari, sur Internet. Et il a abandonné le chien qu'il voulait nous vendre 3 000 $.
Vous l'avez rencontré quand il a su que c'était GIA, il vous l'a laissé là, dans le
parc. Ben, c'est parce que je lui pose des questions. Il nous avait évidemment donné rendez-vous dans un lieu qui n'était pas chez lui, dans le hall d'entrée d'un immeuble toujours dans Côte-des-Neiges qui n'était pas chez lui. Il y avait un code, mais bon, je pense que quand on a commencé à lui poser des questions, on avait fait exprès pour qu'il laisse le chien derrière, pour qu'il monte ses papiers. Je voulais pas, absolument pas faire en sorte qu'il sache qu'on était juste avant avec sa bête dans les mains, parce que je craignais qu'il parte à la course avec le chien. Je fais en sorte qu'il le laisse dans le hall. Et là, quand je me suis présenté comme journaliste pour lui poser des questions, savoir d'abord comment tu l'as payé ton chien, hein, son chien. Souvent, les importateurs comme ça, les achètent quelques centaines de dollars. Mais voyez le prix qu'il nous vendait, là, son Yorkshire, là, il nous vendait lui 3 000 $, une petite bête là, toute frissonnante qui avait à peine 5 semaines. Yep. C'est ça. Le pauvre, quand j'ai commencé à lui poser des questions, s'est mis à fuir. Et nous, on s'est retrouvé avec cette bête-là dans les mains. Qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on l'attend? Il ne reviendra pas s'il nous voit. On ne peut pas le laisser dans le hall d'entrée. Est-ce qu'on va voir les policiers? Les policiers ne sauront pas quoi faire avec. Finalement, on a décidé de d'amener cette bête-là chez un refuge avec qui on avait déjà parlé justement du problème d'importation de chiots. Eux ont accepté de le faire. Ils l'ont gardé pour aller l'amener dans chez un vétérinaire. Ce groupe s'appelle les Aristopathes. Donc, c'est un refuge de dernier recours. Quand un vétérinaire voit un chien, un chiot, qui a été abandonné, puis qu'il veut pas l'euthanasier, mais qu'il a pas les moyens de, ou qu'on n'a pas les moyens de payer pour ses frais, c'est eux qui vont le prendre en charge et qui vont payer pour ça grâce à du sociofinancement. Donc, on est allé porter ce chiot-là chez les Aristopathes, chez le vétérinaire. Écoutez, ça a coûté 700 $.
Il était malade, ouais.
la bête. On a trouvé des traces de parvovirus, on l'a vraiment pris à temps. Fort probablement qu'il aurait subi le même sort que Milo.
Non, c'est vraiment problématique. Et là, t'as peut-être pas la réponse. Je sais pas si on va plus loin parce que, bon, on sent voir que ça devient vraiment une problématique. On sait qu'au Canada, on est équipé quand même côté maltraitance d'animaux. Il y a le code criminel qui prévoit des sanctions criminelles. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement à ceux qui commettent ces gestes-là. Et avec l'exemple des cargos, et on voit que tout ça amène à la maltraitance. Est-ce que les autorités ont réagi ou est-ce qu'on part de poursuites là-dedans ou pas du tout?
Non. Écoutez, ce que dit essentiellement l'Agence canadienne d'inspection des aliments dans des communications qu'on a eues par échange courriel parce qu'ils ont refusé de nous accorder des entrevues, c'est que ces importateurs-là sont réglementés et doivent présenter des certificats très précis, des documents très précis. Et ce que dit l'Agence, c'est que quand arrive un carreau comme celui-là, si les animaux semblent en bon état, bon, c'est pas tous les avions là qui arrivent comme celui du Crane Airlines avec des animaux morts. S'ils semblent généralement en bon état, on va laisser passer puis on va faire en sorte que les importateurs prennent leur cargaison en se fiant sur la bonne foi des documents qui sont remis par les gens qui importent les chiots.
OK. Donc on va pas trop fouiller ou enquêter sur la santé ou la manière qui ont été pris dans d'autres pays là.
On n'a pas de budget. On n'aura pas de budget de toute façon pour y aller. Mais on s'entend que ces chiots là peuvent déjà, puis on l'a vu avec le chien de M. Blais et Mme Séguin, là, ont déjà en eux le virus parvovirus parce que c'est tellement contagieux dans le transport qu'ils se le donnent un l'autre. Et le vétérinaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, quand il voit arriver ces cargaisons-là, si les chiots ont l'air le moindrement en santé ou normaux, ils vont laisser passer la cargaison, c'est tout. C'est ce que reproche d'ailleurs l'Association québécoise, l'Association canine québécoise là, qu'on a rencontrée ici dans l'émission. Ils ont remarqué aussi évidemment une augmentation de ces importations-là. On parlait de Moldavie, d'Ukraine, peut-être même de Tunis aussi. Bref, ils reprochent ce laxisme-là peu là, des importateurs. Ils mettent en garde évidemment les consommateurs qui seraient tentés là, parce qu'ils veulent un chien à tout prix. C'était le thème de notre émission, de dépenser ces sommes-là pour des chiots qui risquent d'être malades. L'autre problème, et c'est ça qu'on révèle dans l'émission, l'autre problème qui arrive quand on achète des chiots qui sont séparés trop rapidement de leur mère, parce qu'on comprend que c'est ça ce qu'ils vendent mieux, hein, des petits chiens, il y a des problèmes de comportement qui peuvent arriver avec ça parce que la mère n'a pas le temps de faire son travail de
socialisation.
Socialisation, en plus, en temps de pandémie, ne se fait pas. Donc, les chiens, ce sont des chiens qui ont peur. Et un chien, c'est une vétérinaire qui nous dit dans l'émission, un chien qui a peur, ben, c'est un chien qui meurt. On s'attend peut-être même à une augmentation de morsures.
C'est très grave. C'est sûr que quand il n'y a pas de conséquences, puis on voit que c'est un fléau, il n'y a pas de conséquences, c'est certain que ça risque d'avoir lieu. Mais ce qu'on dit aux consommateurs, c'est quand c'est trop beau pour être vrai, il y a peut-être un problème, puis il faut s'armer de patience dans ce domaine-là pour avoir des bons chiots là, qui sont pas maltraités.
Oui, absolument. Mais il y a des conseils d'usage là, qu'il faut absolument... il faut poser des questions. Il faut poser des questions précises à ces gens-là puis se méfier de certains documents qu'on va remettre entre les mains, téléphoner sur les numéros de téléphone qui sont là parce que ce qu'on nous dit, là, notamment, il faut questionner les éleveurs sur les origines du chien. Si vous voulez un bulldog français, par exemple, il faut savoir qui sont les parents. Il faut savoir quel nombre de portées la mère a eu par année parce que une mère qui a trop de chiots bon, risque d'avoir des problèmes génétiques. Il faut savoir aussi quels sont les parents. Il faut les voir. Aujourd'hui, technologie, il y a des vidéos, il y a des Skype qu'on peut faire, il y a des Facebook.
Oh, oui.
Demandez aux éleveurs de voir les parents. Demandez aussi de voir si le carnet de vaccin du chiot en question.
Il ne faut pas s'aveugler. Et s'il y a moins de demandes, les gens prennent plus de précautions, ben, il y aura moins de problèmes. Félicitations pour votre bon travail. Je pense que déjà d'en parler, de le dénoncer, ça va aider. Merci beaucoup, Richard Olivier. On se reparlera pour un autre dossier. Bye-bye.
Au revoir.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
La pandémie a porté un coup dur sur les CHSLD. Pensez au drame qu'il y a eu, au drame du CHSLD des Hérons, des personnes qui sont laissées dans leurs excréments, déshydratées, on s'en occupe pas. On sait, il y avait un problème, là, on le sait, il manquait de ressources avant la pandémie. Et là, ça a pris ce choc-là pour se rendre compte que ça cassait tout partout. On a tendance à vouloir blâmer les employés qui y travaillent, mais il y a un problème qui semble être beaucoup plus gros, un problème qu'on pourrait même dire systémique du système. Et il y a Frédéric Bérard, maître Frédéric Bérard, docteur en droit, qui a écrit dans le journal Métro à ce sujet-là, suite à une entrevue avec Denis Lévesque. On brasse un peu. Salut Frédéric.
Salut.
Donc, t'es allé fouiller plus loin là, dans ce domaine-là, à savoir que ce serait peut-être pas la faute des employés. Il y a un problème, là.
Ben en fait, j'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs amis qui s'est enrôlé depuis l'appel de François Legault comme préposé aux bénéficiaires en pleine pandémie au mois de mai dernier. Mm-hmm. Il a fait sa formation un peu à la va comme je te pousse, là, comme beaucoup d'autres qui ont été envoyés au front. Tu vois, lui, il me tient au courant de ce qui se passe là-bas. Puis, j'avais effectivement fait un débat à Denis Lévesque avec Gilles Proulx, puis l'ami en question, il disait ça pas d'allure, il pose des questions, puis vous savez pas quoi répondre, vous connaissez pas notre réalité. Puis j'ai dit, ben effectivement, alors dis-la nous. Et en gros, lui, ce qu'il explique, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant au point, j'en ai fait ma chronique d'hier, comme tu disais, c'est que les CHSLD, selon lui, doivent être qualifiés de tombe, de dépotoir de notre système. Et pourquoi il dit ça, c'est que, regarde, il y a quelque chose d'assez fascinant. Il dit on envoie ceux et celles qu'on veut pas avoir ailleurs, là, on les envoie là-bas. Puis ça fait quoi? Ben ça fait qu'il dit, moi, par exemple, comme préposé aux bénéficiaires, ben je passe du temps avec, évidemment, les bénéficiaires en question, qui sont bien souvent des personnes âgées. Or, il dit, ça arrive fréquemment que ces personnes âgées-là commencent à en perdre des petits bouts, à être un peu plus confus. Et parfois, bon, ça devient de plus en plus grave. Mmh. Or, là, il nous donnait quelques exemples, dont certains qui lui sont arrivés d'ailleurs, relativement récemment. Il dit, par exemple, Monsieur X décide d'arrêter de manger, décide d'arrêter de boire. Ben, moi, évidemment, je prends mes consignes de l'infirmière qui est en charge. Mais arrive un moment donné où, comme le CHSLD n'est pas considéré comme étant un milieu de soins de santé, mais un milieu de vie. Pense-y, un CHSLD, c'est pas un milieu de soins de santé, c'est un milieu de vie.
Okay.
Selon la loi habilitante qui les a créés. Ben, ça fait en sorte que, il dit, moi, là, je peux pas gérer ça comme, je peux pas gérer mes patients, si je peux dire, comme si j'étais dans un hôpital. Donc, dans le cas précis qui nous occupe, que je te mentionne, puis il y en a un paquet d'autres apparemment, ben monsieur arrête de boire, arrête de manger. Ben il dit, je peux rien faire d'autre que dire à sa famille, votre père, votre grand-père, peu importe, on pense qu'il se laisse mourir, donc il faudrait l'envoyer à l'hôpital. Et là, il dit bien souvent, la réaction des gens, c'est de dire, ben non, les gens sont dans le déni, puis c'est normal, genre, ça va mieux aller, ben inquiétez-vous pas, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et là, ça fait en sorte qu'ils sont obligés d'attendre, là, je parle des préposés bénéficiaires et des infirmières, qu'un médecin arrive. Or, les médecins, il y en a qui arrivent là aux 3, 4, 5, 6 jours. Mais il dit, le temps que le médecin arrive, ben il dit, moi, mon patient est mort. Il est mort déshydraté. Ah, et là, ils disent, on se fait battre dans l'opinion publique, puis on comprend les réactions de l'opinion publique, j'en fais moi-même partie. On se fait battre comme quoi qu'on s'en occupe pas, mais il dit, je te garantis que moi, après les avoir mangés, lavés, puis toute la patente, moi, ma job, c'est de passer du temps avec eux, jaser avec eux. Puis oui, souvent, ils sont confus. Des fois, il n'y a plus grand-chose à tirer de là, c'est ce qu'on pense, mais ça reste des humains. Et le fait de ce problème structurel-là, c'est ça qui est important de comprendre. C'est pas un manque d'humanisme, là. C'est pas genre un manque de, comment je te dirais, de compétences de ces préposés-là ou de ces infirmières-là. C'est un manque de ressources. T'as pas de médecin. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent pas les forcer à manger, ils peuvent pas les forcer à boire, comme ça pourrait être le cas à l'hôpital.
Ben, effectivement. Mais Je sais pas, mais ça fait un méchant. Ça fait longtemps qu'il y a un problème. C'est seulement pour être. Là, on a fait une formation, puis je pense qu'il y avait eu un litige sur le salaire qui n'était pas celui annoncé. Là. Je sais pas si ton ami t'en a parlé. Mais il donne des pinottes pour une job. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, une job sale. Là. C'est...
Hey, sérieusement, François-David, là, moi, je ne peux pas imaginer le montant minimum pour que je fasse la job que fait mon chum, qui s'appelle André, par ailleurs, je ne l'ai pas dit. Là. Mm-hmm. Sérieusement, tu me paierais 1 million par année, je suis pas sûr que je la ferais. Parce que ces gens-là œuvrent dans des situations archi-difficiles, souvent parce qu'il y a des problèmes de santé mentale aussi, ainsi de suite. Ils se font frapper par les bénéficiaires.
Ça peut être violent, là. Entre bénéficiaires, sur les infirmières, sur les préposés, en criminel, il y a des causes. C'est difficile de poursuivre parce qu'ils ne sont pas aptes de tous leurs moyens, mais des coups de ce que tu veux, chargés avec la chaise roulante. J'ai entendu toutes sortes d'histoires ce domaine-là. C'est pas facile, là.
J'en doute pas. Tu sais, ces gens-là, pour moi, les André de ce monde, sont en quelque sorte les derniers remparts de notre humanisme. Mm-hmm. Je pense que c'est une formule que je devrais conserver. D'ailleurs, je viens d'y penser. Je trouve ça
très bien dit.
Mais c'est effectivement le cas. Mm-hmm. Parce que tu parlais de jobs sales. Qui veut faire des jobs comme ça qui sont ingrates, qui ne sont pas bien payés? François Legault, je suis désolé, mais il leur a menti. Il leur a dit, vous allez rentrer, là, puis ça va être tel montant de l'heure. Or, au final, finalement, je pense que c'est quelque chose comme 5 piastres de l'heure de moins que ce qui est promis. Quelque chose comme 20, ils ont 20 puis ils devaient avoir 25, là, ou un truc.
Ah non, il y avait tout qu'un litige. Puis s'ils lâchaient, il fallait qu'ils remboursent. Là. Et c'est là, il y en a qui n'étaient pas contents. Là.
Et tu sais quoi, dans la formation en question qu'André a suivie, il m'expliquait, je me souviens pas des chiffres exacts, mais je me souviens des proportions, par exemple. On a commencé à 20 coques. Ben, à la fin de la formation, s'il était 5, c'était beau. Et là, on ne parle pas d'une formation de 5 ans, là, c'est une formation de je sais pas, 6 semaines, peut-être 2 mois, je me souviens plus. Donc, ça pour dire que ces gens-là, il y en a qui abandonnent parce que la plupart abandonnent parce que c'est excessivement difficile. C'est difficile d'un point de vue physique, c'est difficile peut-être surtout d'un point de vue moral. Or, si on n'a pas ces gens-là, on est cuit. Et là, et moi, c'est ce qui me fâche le plus, c'est qu'on continue à faire en sorte qu'il s'est rien passé depuis la pandémie. Je sais pas si tu remarques ça, là, mais François Legault, au début, rappelle-toi, là, ben, pendant 6 mois, il dit, oui, on a beaucoup de morts, mais tu sais, faut faire attention parce que la grande majorité de ces morts-là ont lieu dans les CHSLD. Donc quoi, François, c'est que vous dites que c'est moins grave? C'est quoi, ces gens-là sont pas Québécois à part entière? Il y a deux catégories de citoyens, les Québécois puis les petits vieux qui crèvent dans les CHSLD. Moi, j'ai toujours trouvé ça absolument aberrant. Et là, tu regardes d'un point de vue solution, parce que je comprends qu'une pandémie, ça surprend tout le monde, les gens sont pas prêts, nos dirigeants savent pas trop où ça s'en va, puis ça, c'est normal, je comprends ça. Mais là, ça fait déjà 1 an. Et est-ce qu'il y a eu des solutions qui ont été envisagées et apportées depuis? Pas de ce que je comprends. Marguerite Blais est encore en poste, tout va bien, qu'est-ce qu'elle a fait? On n'a aucune idée. On sait qu'il y a une couple d'années, elle a envoyé des clowns pour foirer les personnes âgées, mais c'est à peu près tout. Laisse faire les clowns, il se passe rien. Et là, ce que je sais, c'est qu'on parle pas de milieux qui sont considérés comme des soins hospitaliers, alors qu'à la base, entre toi puis moi puis la boîte à bois, c'est pas mal ça, que c'est en très bonne partie.
Ben oui. Honnêtement, il y a un réel problème. Puis avant la pandémie, tous les bobos ont sorti pendant la pandémie, mais t'as raison, je suis pas sûr qu'on va faire quelque chose. Puis c'est triste. Moi, c'est tout. Puis physiquement, c'est dur pour eux. Psychologiquement, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi de mon côté de préposés qui disent qu'ils sont malheureux, détruits parce que ils ont pas le temps de s'en occuper, il y a manque de ressources, ils sont forcés à un certain moment de les traiter comme des je sais pas comment le dire, je veux pas aller contre ceux qui aiment les animaux, comme des animaux, mais dans le sens ils ont pas le temps puis les ressources de bien s'en occuper, puis il y en a qu'au final ils vivent très mal avec ça, ils se sentent coupables, puis je veux dire, si notre société devrait... la façon que tu traites les aînés, c'est toujours... c'est révélateur d'une société. Puis là-dessus, je pense que tu as raison, on l'échappe. puis on l'échappe sur plein de domaines. À un autre moment donné, je parlais de la maltraitance, tu sais, qui est même pas dans le code criminel. Je veux dire, il n'y a pas d'infraction spécifique, c'est pas clair, il faut que ce soit de la négligence.
Ouais.
Donc, tu sais, il y a tout un travail à faire, mais on le fait pas.
Juste à dire là-dessus, moi, après avoir réfléchi un petit peu à ces questions-là, en jasant avec André et tout, puis en parlant avec toi et d'autres, moi, je suis en train de me demander si c'est pas un cas de charte canadienne où tu pourrais invoquer le droit à la sécurité physique.
Oui, et où, d'accord, entièrement d'accord.
Mais peut-être aussi du personnel en question, parce que, je te jure, moi, mon chum André, là, ce gars-là, il est solide comme une roche, là. C'est physiquement, mais moralement aussi, parce qu'autrement, tu ne passes pas à travers, parce que tu vis avec la misère humaine en un sens à temps plein. Mm-hmm. Et là, tout ce que tu sais, c'est que tu es en attente d'un médecin qui va peut-être passer, qui passera peut-être pas. Puis tu as des gens qui sont sous ta charge, qui vont en mourir au final, déshydratés. Pense-y, mourir déshydraté en 2021 dans un Québec qui est riche, tu regardes versus d'autres sociétés, c'est gênant, puis pas juste un peu. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y aurait pas un argument à faire là-dessus? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Et peut-être qu'avant de se rendre là, ben ça serait peut-être bien qu'on se réveille collectivement, qu'on arrête de parler de Monsieur Patate puis du popcorn dans les cinémas, puis qu'on s'occupe de nos personnes âgées, parce que t'expliquais que de la manière qu'on les gère et tout. Gandhi avait une formule pour ça qui était super. Il disait, on reconnaît la valeur d'une société de la manière dont elle gère ses animaux. Je pense que tu peux au moins, à Paris, peut-être même à Fortiori, dire la même chose, mais des personnes âgées.
Ben oui, il faut faire quelque chose. C'est vraiment dans tous les domaines. Et la pandémie, ça fait 10 fois que je le dis dans l'entrevue, mais a fait ressortir ça. Mais la question qu'on se pose, puis on le verra dans le futur, est-ce que, comme tu as dit tantôt, ça va, on est scandalisé sur le coup, après ça redescend, puis ça va rester de même des années encore. Souvent, c'est le cas. Regarde avec nos jeunes, ça a même affaire avec la DPJ, là, comment de drame ça prend pour qu'il y ait une commission Laurent, mais comment de drame dans le domaine des aînés ça va prendre pour qu'il y ait à un moment donné que ça, du brasse camarade, puis peut-être qu'on en fasse une commission, puis qu'on se dise les vraies choses pour régler le problème,
ben,
du moins l'améliorer. Là.
Ben, tu sais, le cas dont je te parle, les cas dont je te parle, parce qu'il y en a plus qu'un, ça a même malheureusement rien à voir avec la pandémie. Ce sont des cas de déshydratation.
Oui, c'est ça.
C'est que je veux dire, ça arrivait avant, ça arrive aujourd'hui, puis ça va encore arriver avec la structure qu'on a là. Mm-hmm. Je veux dire, entre toi, puis moi, je suis pas médecin de la santé, je suis pas ministre de la santé, je suis pas médecin tout court, puis à la limite, je connais rien. Mais ça m'a pas l'air d'être du génie nucléaire de changer le statut des CHSLD pour, d'une part, s'assurer qu'il y a une meilleure prise en charge mm-hmm. des bénéficiaires pour les traiter comme des patients, comme par exemple dans un hôpital, première ouais. des choses. Puis deuxièmement, des ressources. Tu sais, nous dire ça coûte cher. C'est drôle parce que pour bien des affaires dans vie, là, je regarde aller nos gouvernements, là, particulièrement provincial, là, garocher de l'argent à gauche, à droite, là, pour les chums de Fitzgibbon, ça, il y en a toujours de l'argent. Mais il me semble que pour des préposés aux bénéficiaires, moi, ça me gênerait pas, qu'il y en a encore un petit peu plus.
Hein. Ben oui. Tout est une question de priorité et là. On invite les gens à lire ton article. C'est une priorité maintenant aussi. C'est un peu dégueulasse là, ce qu'on peut entendre dans ce domaine-là. Sans enlever rien au personnel parce qu'ils font tout un travail. Effectivement.
Au contraire. Et puis c'est pour ça que j'ai voulu faire ce truc-là parce que bon, c'est le char de ma zone de confort. Là, je suis pas un spécialiste de
la santé. Non, c'est ça.
Mais je veux essayer d'amener le sujet. Puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
Ben oui.
Je veux essayer d'amener le sujet sur certaines tribunes en disant regardez, ça, si c'est pas une priorité, on fait dur. Puis plutôt que de lancer la roche au personnel, puis c'est souvent un réflexe qui est normal. Puis oui, il y en a du mauvais staff, mais en gros, le problème, il est pas là. Il est pas chez le staff. Le problème, il est structurel. Puis ça, c'est notre job comme société de s'arranger à ce que ce soit modifié en mettant de la pression politique. Mm-hmm. Qu'on fasse passer ces gens-là comme étant des priorités et non pas des faire-valoir de dernière liste.
Ben, effectivement. On se laisse là-dessus. Déjà, j'ai défoncé parce que c'était trop intéressant là, sur le temps.
Puis comme un plus léger.
Ouais, c'est ça. Mais déjà, de le dénoncer, c'est important. C'est un premier pas vers du mieux. Merci, Frédéric.
Hey, t'es fin. Merci beaucoup.
Bye bye.
À la semaine prochaine.
Prochaine. Bye.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, Vive la bouffe et les bonnes affaires.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Au Canada, il y a une loi sur les langues officielles. On sait qu'en ce moment, il y a la ministre Joly, il y a un projet, on travaille à l'améliorer, à la changer, à l'actualiser. Par contre, on se rend compte dans ce processus là, que l'Acadie du Nouveau-Brunswick serait la grande oubliée de la réforme linguistique de la ministre. Et on voudrait, parce qu'on sait, hein, il y a des statuts qui sont reconnus par le... Bon, exemple, au Québec, il y a deux langues officielles, donc il y a un impact sur tous les commerces. Et, donc, il y a tout cet élément-là de langue officielle. Et dans ce processus-là, on aurait oublié l'Acadie. On en parle avec M. Alexandre Cédric Doucet, qui est président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous mettre en contexte un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment? On veut réformer la loi sur les langues officielles, mais il y a des éléments là, qui font pas votre affaire dans cette réforme-là.
Effectivement, je pense que pour expliquer le sujet qui est un peu complexe, je pense qu'il faut quand même donner un aperçu historique du dossier. Donc, nous autres, à la SND, en 2016, on a déposé un mémoire qui est intitulé « Reconnaissons enfin la spécificité du Nouveau-Brunswick dans la loi sur les langues officielles » au Comité permanent sénatorial des langues officielles. Un an après, en 2017, le président du comité a soumis le mémoire du comité sénatorial, qui est René Cormier, et qui est pratiquement peu du copier-coller, mais qui représente un peu ce que Mélanie Joly a présenté dans son livre blanc qui est des intentions législatives. Donc nous autres, on avait dans la spécificité du Nouveau-Brunswick, on demanderait quatre choses. On voulait que dans le préambule et dans la clause d'interprétation qu'on reconnaissait cette spécificité-là du Nouveau-Brunswick. En termes législatifs, dans le préambule, c'est un peu plus symbolique. Mais il faut penser que la dernière grande modernisation qu'il y a eu, c'est en 1988. Et nous autres, on avait en 88, au Nouveau-Brunswick, on a eu la fameuse loi qui reconnaît les deux communautés linguistiques officielles. Okay. Et qui a été enchâssé dans la Constitution canadienne et donc dans la Charte canadienne des droits et libertés en 1993. Donc, on demande juste d'arrimer la Charte canadienne des droits et libertés avec la loi sur les langues officielles au fédéral. Donc ça, c'était une des demandes.
Parce que cette reconnaissance-là ne serait pas dans le projet de loi, c'est dans la Charte, mais c'est pas bien expliqué. Là. Parce que, seulement pour faire comprendre à nos auditeurs, là, on veut vulgariser un peu, là. À la base, à quoi sert la loi sur les langues officielles, là?
Ben, j'ai toujours dit que la loi sur les langues officielles, c'est un peu un contrat social entre les deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick. Donc, tu sais, le bilinguisme au Canada et au Nouveau-Brunswick, c'est un projet de société. Puis, ce qu'on demande, c'est qu'on, tu sais, une loi, il peut avoir les meilleures dispositions au monde, mais tu sais, après ça, c'est la mise en œuvre. Donc, ce qu'on demande dans cette modernisation ici, c'est qu'on a des nouveaux remparts, qui est des nouvelles dispositions pour nous permettre après ça de négocier des mises en œuvre qui peut permettre l'épanouissement vraiment des communautés linguistiques, des communautés francophones et acadiennes au Nouveau-Brunswick.
Okay.
Donc je pense que si on veut avoir un projet de société de bilinguisme, ben, je pense que le meilleur projet pilote qu'on peut avoir au Canada, ben, c'est de s'assurer que le Nouveau-Brunswick soit réellement bilingue.
Mais parce que Dans le quotidien, comment la loi va protéger les communautés francophones?
Ben effectivement, c'est nous autres ce qu'on demande. Puis je pense que le nerf de la guerre, c'est tout par rapport à la partie 7 de la loi. Puis nous autres, on demande, entre autres, qu'il y a une reconnaissance de la spécificité du Nouveau-Brunswick à deux reprises dans cette partie-là. Premièrement, c'est qu'on aimerait que le gouvernement fédéral tient compte de l'équilibre linguistique du Nouveau-Brunswick dans ses politiques d'immigration. Puis la Cour suprême l'a souvent mentionné en termes de droit linguistique, mais on vise toujours l'égalité réelle au Nouveau-Brunswick, mais c'est encore plus pratique, puisqu'on c'est une province bilingue. Donc, quand on parle d'immigration, on va avoir une immigration 50-50. Mm-hmm. Et présentement, les cibles sont vraiment pas atteintes. Puis, c'est même inconstitutionnel. Et l'autre chose qu'on demande dans la partie 7, c'est tout par rapport au pouvoir de dépenser du fédéral. Mm-hmm. Donc, nous autres, à l'article 16.1, comme que j'ai expliqué un peu plus tôt, mais l'article 16.1 de la Charte donne droit à des institutions distinctes aux deux communautés linguistiques, donc les francophones et anglophones. Donc, quand on parle que à la partie 7 de la loi sur les langues officielles, qu'on veut avoir une reconnaissance du Nouveau-Brunswick, ben, c'est qu'on veut que, par son pouvoir de dépenser, le fédéral subventionne des institutions telles que la petite enfance et des institutions postsecondaires qu'on a, comme l'Université de Moncton.
Mm-hmm. OK. Je comprends. Et est-ce que le comment va le processus? Est-ce que vous sentez une écoute là-dessus? Ou?
Ben, la raison qu'on a sorti, c'est que lorsqu'on regarde le livre blanc, il y a un vouloir par la ministre Joly de reconnaître la dynamique de la spécificité du Nouveau-Brunswick. Mais nous autres, on pose des questions depuis plus d'une semaine parce que le nerf de la guerre pour nous autres, c'est bien beau de le reconnaître, mais il faut le spécifier où ce sera dans la loi. Mmh. Et on pose des questions depuis une semaine, puis on n'a pas de réponse, puis nous, ça nous inquiète. Okay. Parce que la dernière chose qu'on aimerait, c'est on aime mieux prévenir que guérir, là. Donc, on aime mieux donner des avertissements tout de suite que quand il y a un projet de loi, que là, on doit lobbyer les différents partis, puis c'est moins certain. Fait que là, avant qu'il y ait un projet de loi décrit, on aime mieux donner un avertissement que ça soit reconnu.
Mm-hmm. Et en général, est-ce que vous vous sentez oublié comme communauté francophone? Est-ce que, si on compare au Québec, on sait, dans le fond, au Canada, il y a deux provinces qui sont bilingues là, officiellement. Là. Il y a le Québec, le Nouveau-Brunswick. Là.
Bien, on est oublié dans un certain sens. T'sais. Évidemment, on a entendu les demandes du gouvernement québécois par rapport à la loi sur les langues officielles par M. Legault. Mais malheureusement, on n'a pas de François Legault qui est à la tête du Nouveau-Brunswick.
Okay.
Donc, nous, de notre côté, on se fie un peu au fédéral pour nous protéger. Mm-hmm. Pour des raisons politiques aussi.
OK. Mais le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, est-ce qu'il se porte bien?
Oui et non. Si on demande la question aux communautés linguistiques minoritaires en dehors du Québec, puis en dehors du Nouveau-Brunswick, si au Nouveau-Brunswick ça va bien, ben, ils vont dire ben oui, mais ils ont un statut bilingue. Mais sur le terrain, c'est autre chose. On a quand même placé des bonnes... on a des dispositions législatives qui nous aident, mais la mise en œuvre est très difficile à voir, puis la volonté politique est rarement là. Mmh. Peu importe que ça soit un gouvernement libéral ou progressiste conservateur, c'est toujours vraiment difficile dans la mise en œuvre. Donc là, présentement, on a une modernisation de la loi sur les langues officielles au fédéral, mais on a aussi une révision, nous autres, au Nouveau-Brunswick, de la loi, fait que mettons qu'on est très occupé présentement, mm-hmm. mais fait que présentement c'est un peu un terrain mini.
OK. Parce que je pense à Montréal. Montréal, il y a certainement beaucoup de gens affirment qu'il y a que le français prend du recul par rapport à l'anglais. Mm-hmm. Est-ce qu'au Nouveau-Brunswick, c'est cette inquiétude-là que vous avez?
Bien, on a toujours cette inquiétude-là. Et là, il y a justement une étude qui est sortie, je pense que c'est deux semaines passées au Nouveau-Brunswick. Et il commence à avoir des signes très inquiétants par rapport à la désintégration du français au Nouveau-Brunswick. Donc, je pense qu'il faut vraiment être aux aguets. Puis, au niveau démographique, les francophones et les acadiens, ça se passe bien, mais on a toujours un décalage par rapport aux anglophones. Mm-hmm. Je pense que nous autres, le point important qui risque d'être un point vraiment crucial pour nos communautés, ça va être l'immigration. C'est de s'assurer qu'on aille chercher des immigrants francophones et que ça soit vraiment égal à la communauté anglophone pour qu'on ait une pérennité.
Parce qu'en ce moment, vous n'avez aucun contrôle là-dessus, là.
Non, c'est ça exactement. La mise en œuvre de la charte ou de la loi n'a pas vraiment lieu. Fait qu'on doit toujours se battre avec les gouvernements puis les avertir qu'ils font mal leur job.
OK. Et au niveau scolaire, est-ce qu'il y a, cette volonté-là que les deux langues soient mises de l'avant? Est-ce qu'il y a des protections pour le français, comme il y a au Québec un peu?
Ben, au niveau scolaire, tu sais, au niveau des écoles francophones, je pense que c'est toujours, évidemment, c'est pas dans mon champ d'expertise, puis c'est pas mes dossiers que je travaille au quotidien, mais je pense que les écoles francophones et acadiennes se portent quand même assez bien. Et évidemment, je pense qu'on pourrait faire une meilleure application de l'article 23 au niveau de la gestion, puis au niveau des infrastructures. Mais je pense que ça va avoir lieu dans les prochaines années. Je pense que aussi un des plus gros problèmes qu'on a, c'est au niveau de l'immersion française. On serait supposé d'être un exemple au niveau du Canada sur notre gestion de l'immersion. Et je pense qu'on a un des pires. Le niveau de succès qu'on a est sincèrement atroce. Donc, je pense que puis là, notre gouvernement présentement, heureusement, a un vouloir d'améliorer l'immersion française.
Je comprends. En tout cas, on vous souhaite d'être entendu et que ça aille dans le bon sens. Merci beaucoup, M. Alexandre Cédric Doucet, c'est président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonne journée.
Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée à toi aussi.
Au revoir.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
On passe maintenant aux questions du public. Les questions que vous pouvez poser sur notre ligne 1-844-425-0417. Et il y a toutes sortes de questions d'actualité auxquelles on peut répondre à Avocat à la barre. Et il n'y a même pas de frais juridiques. Ça vaut la peine. Posez-les. Cette semaine, il y en a deux importantes qui ont retenu notre attention et on va commencer avec la première que voici.
Oui, bonjour. Ma question est en rapport avec hier sur le déconfinement. Là. Je veux savoir pourquoi le gouvernement, Legault, n'a pas attendu deux semaines pour vraiment après la semaine de relâche pour que ce soit certain qu'on ait moins de variants. Est-ce que c'est parce que c'est-tu du côté économique que le premier ministre fait ça? C'est la question que je vous pose. Merci, au revoir.
Très bonne question. C'est sûr que là, on savait, on va parler de la région de Québec là, qui était au rouge. Il y a d'autres régions aussi, mais je vais me concentrer sur celle-là. On sait qu'avant la relâche, on y pensait déjà à rendre la région en orange. Et on a attendu. Bonne question, pourquoi on n'attend pas voir un autre deux semaines, le temps à savoir s'il y a eu des éclosions pendant la semaine de relâche. Et la personne qui nous pose la question dit, est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est qu'on veut que l'économie reprenne? Certainement que c'est bénéfique que les restaurants ouvrent à nouveau dans la région de Québec. Et oui, c'est une bonne chose. Par contre, il y a quelques personnes dans le domaine qui ne sont pas contents parce que on sait que la réouverture, là, il y a un petit délai. Là. Imaginez là, un restaurant fermé, réouvré. Pour faire de la cuisine, ça prend de la nourriture. Il y a des fournisseurs. Et là, les fournisseurs sont peut-être les mêmes avec les restaurants. Donc, ça cause quelques problèmes. Parenthèse dans tout ça, pour répondre à la question, non, c'est pas... à ce que j'en fais la lecture, là, c'est pas économique. Parce que sachez qu'en matière de droits et libertés individuelles, je l'ai souvent dit, mais je le répète, ce qu'on a assisté cette année, c'est exceptionnel. Je pensais jamais voir ça. Là. On est rendu un couvre-feu. on brime des droits et libertés individuelles, on empêche les gens de faire des choses. C'est très contraignant. Et habituellement, s'il n'y avait pas cette menace sanitaire-là, on ne pourrait jamais utiliser ce genre de pouvoir-là. Mais la règle en matière de... Quand on brime des droits et libertés, même si c'est pour la santé, comme on le voit là, la règle, là, c'est que c'est l'exception. C'est exceptionnel. C'est quand la menace est réelle, imminente. Et dès que le gouvernement sait qu'il peut donner du lousse, arrêter de restreindre ces droits et libertés-là, il se doit de le faire le plus rapidement possible pour éviter justement des poursuites dans ce domaine-là. Parce que quand on parle de droits et libertés, vu que c'est important, dès qu'on peut, on retourne à la normale. On peut pas seulement dire, ben, regardez là, restez confinés, on verra, ben, au cas, peut-être que si jamais il y a des éclosions. Non. Et c'est comme ça, il faut qu'ils reviennent à la normale. Oui, il y a un risque qu'on assiste, comme il s'est passé aussi en Europe. En Europe, c'est un peu, on pense à l'Angleterre, il y avait eu cette accalmie-là, la descente des cas. On a déconfiné. Et avec ce fameux variant-là, que ce soit le britannique de l'Afrique, bien, on a eu une augmentation. Mais en tant que gouvernement consciencieux des droits et libertés, ils se doivent, dès qu'ils peuvent, d'arrêter de restreindre les droits et libertés. Et on se rappelle aussi, hein, beaucoup de critiques avaient été données au gouvernement avec les masques, par exemple. On disait, ben, pourquoi ils n'ont pas imposé le masque plus rapidement? Mais encore là, c'est brimer des droits. On a attendu le plus longtemps possible pour imposer des restrictions. Pensez au couvre-feu aussi. On a eu beaucoup de problèmes. Malgré les avertissements, les mesures de santé, on ne pouvait pas intervenir dans les résidences. C'était problématique. Beaucoup ont dit, ben, pourquoi ne pas avoir mis un couvre-feu plus rapidement? Ben, encore là, c'est ça. Il fallait attendre vraiment d'être certain qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'arriver avec ces mesures drastiques-là qu'on ne verra pas souvent dans notre vie. Je l'espère, du moins au Canada. On sait qu'on est très frileux tout ce qui est droits et libertés. Prochaine question, allons-y pour la prochaine, qui est très intéressante également.
Oui, bonjour, j'aurais une question pour vous. C'était pour savoir, est-ce que les passeports vaccinaux dont on parle, c'est légal ou c'est discriminatoire? Est-ce que aussi ça pourrait être une méthode détournée par le gouvernement pour nous forcer à être vaccinés? Merci, au revoir.
Bon, une autre... Très bonne question. Ça a fait beaucoup jaser la semaine dernière. Je n'avais parlé dans certains médias. Mais ce passeport vaccinal-là, effectivement, on ne sait pas trop l'impact. Au final, je suis persuadé que ce sera légal, vu l'importance de la pandémie, vu que les gens veulent recommencer à vivre, puisque beaucoup de choses sont dans le privé également. On pense au vol d'avion, Mais le critère numéro un qu'il faut regarder avant de pouvoir imposer ces passeports-là, il faut vraiment que le vaccin soit accessible, facile. Donc, on peut penser aux États-Unis où est-ce qu'on peut l'avoir à la pharmacie, on se présente, on se fait vacciner. Quand ça sera le cas au Québec, et ce n'est pas le cas en ce moment, tout le monde ne peut pas se faire vacciner. Donc, si on établit ces passeports vaccinaux, si on peut dire, vaccinal, ce serait discriminatoire parce qu'il y a une tranche d'âge qui est vaccinée, une autre ne l'est pas, donc on interdit des gens, donc c'est discriminatoire. À savoir plus tard, si le vaccin est accessible, bien, par contre, je vous l'annonce, il y aura de sérieuses contestations si on met en place ce passeport. Et ce que vous avez vu avec les masques, avec le couvre-feu, c'est rien. Parce que la contestation sera beaucoup plus grande. Parce qu'ici, là, on parle quand même du droit de refuser des soins. On parle de la santé. On pique quand même une aiguille dans le bras de quelqu'un. On injecte une substance, ce vaccin. Donc, beaucoup pourraient contester disant qu'ils ne veulent pas se faire vacciner et qu'ils sont discriminés. Et c'est certain aussi, il faudrait, pour le passeport vaccinal, qu'il y ait des exceptions parce qu'il y en a qui pourraient être allergiques. Il peut y avoir des situations où est-ce que la personne ne peut pas se faire vacciner. Donc, il faudrait prévoir, si on exige ce passeport-là, certaines exceptions, comme on a vu dans tous les domaines avec les masques. Il y en a qui avaient... Il y a eu de l'abus, par contre. On se cache pas. Il y en a qui avaient des faux documents pour dire qu'ils ne pouvaient pas porter le masque. En tout cas, pour ce qui est des vaccins... ce sera le cas parce qu'on ne peut pas... il faut pas... dans la question, c'était quand même intéressant l'aspect est-ce que le gouvernement fait indirectement ce qu'il n'a pas fait directement? Directement, ce serait d'obliger le vaccin. On sait qu'avec la loi sur la santé publique, il pourrait le faire. On sait d'avance qu'on ne veut pas aller là avec le gouvernement. Ça prendrait une situation catastrophique que les gens ne se font pas vacciner, mais la réponse est quand même bonne. Les gens veulent se faire vacciner. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un problème pour obliger le vaccin. Il pourrait. Par contre, c'est vrai que certains pourraient clairement dire, ben vous, au final, vous l'obligez parce que ça prend ce passeport-là un peu partout. Ça fera sûrement partie des contestations si on se rend jusque-là. Mais dans la logique aussi, dans le privé, d'exiger des choses avant, par exemple, de rentrer dans un commerce, ben, vous ne pouvez pas rentrer sans votre T-shirt. Bon, c'est ça. Dans le privé, on peut demander des choses pour pouvoir aller dans l'avion. Il y a des restrictions aussi. On ne peut pas apporter telle chose. C'est sûr que là, où je vois un problème, c'est que ça reste, c'est médical, c'est un vaccin et il y a le refus des soins. Donc, on assistera certainement à des contestations, mais au final, je prédis que ça sera légal si on se rend là. Donc, c'est tout pour les questions du public et c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à poser vos questions et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets d'actualité très intéressants. Même poste, même heure. Merci, bye-bye.
Cube Radio.